l'ingé sain, c'est un comportement qui va être très valorisé dans notre société actuellement et que ça peut tourner à l'obsession. L'obsession pour l'alimentation saine, c'est ça qu'on appelle l'orthorexie.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est un mal de notre époque en matière d'alimentation. Un phénomène silencieux, mais pas moins destructeur, qui isole chaque année des milliers de personnes de leur entourage. Entre 2015 et 2020, les signalements de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être ont doublé. La MIVILUD, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alerte sur le danger des mouvances et groupes qui appellent à des régimes carencés. Ces modes d'alimentation ont tous un point commun. Il mène à un affaiblissement physique de l'individu qui devient alors moins résistant à des manipulations psychologiques. Un mécanisme de domination bien ficelé par les nouveaux gourous de l'alimentation. Jeûner à outrance, ne manger plus que de l'air, exclure les aliments cuits, les dérives sectaires dans l'alimentation sont nombreuses. Dans cette série, nous allons plus précisément plonger dans les rouages du crudivorisme, que l'on appelle également alimentation vivante. Une pratique alimentaire qui prône la consommation exclusive d'aliments crus. Séduisant de par ses promesses d'une meilleure santé loin des diktats de l'industrie pharmaceutique, ce mode de vie repose aujourd'hui sur une constellation de vidéos et de livres mettant en scène l'idée d'un complot, de vérité cachée. Entre déficit alimentaire, complications de santé et isolement social, les dangers sont pourtant grands. Mais dans un monde en perte de repères, contrôler à outrance son alimentation est devenu une manière de donner du sens à son existence. Comment les idées de nourriture et spiritualité s'imbriquent-elles aujourd'hui? Que racontent ces mouvements de notre rapport à la nature? En quoi l'obsession du manger sain peut-il conduire à une détérioration de notre organisme? Et en filigrane, qu'est-ce que ces dérives sectaires disent de notre rapport au monde contemporain? Tout au long de cette série, nous avons plongé dans les rouages des dérives sectaires du crudivorisme. Ce mode alimentaire 100% cru qui prétend pouvoir éloigner et soigner des maladies, y compris les plus graves. Nous l'avons vu, ce crudivorisme absolu a conduit de nombreux adeptes à un affaiblissement généralisé, des carences alimentaires, mais aussi un isolement social. Ces épisodes sur l'emprise mentale du crudivorisme, un certain Léo, 23 ans, les a également écoutés. Et il a eu envie de nous apporter son témoignage. Un autre regard sur, non pas le crudivorisme en tant que tel, mais disons une alimentation faisant la part belle au cru. Léo a grandi dans une famille où les aliments crus étaient au quotidien largement privilégiés. Cette éducation alimentaire, il la doit plus précisément à son père, très intéressé par l'alimentation sensorielle. L'alimentation sensorielle est une façon de s'alimenter qui repose sur nos facultés sensorielles pour choisir quoi manger. Léo a grandi avec un apprentissage, une philosophie dans l'assiette, celle qui consiste à dire que le grillé, le doré, le cuit, bref, le cuisiné, trompe nos sens et nous éloigne de nos véritables besoins. Dans ce raisonnement, manger cru permettrait donc de faire à nouveau confiance en son appétit pour manger ce dont l'organisme a besoin. Dans la famille de Léo, on n'était pas 100% crudivore, puisqu'il arrivait de faire quelques écarts, comme par exemple le fait de servir des céréales cuites en plus d'une salade de crudités quand des invités étaient à la maison. Léo raconte.
On parle souvent de crudivorisme, des dérives, etc. Le problème avec tout ça, et avec tout en général, mais en particulier avec l'alimentation, c'est quand on rentre dans des extrêmes. C'est pour ça, évidemment, il n'y avait pas une histoire de barrière, il n'y avait pas une histoire de limitation. C'était même plus naturel qu'autre chose. Et surtout pas de limiter, encore moins quand on grandit et quand c'est des enfants. On n'a jamais été limité, en fait. C'est vraiment, on a grandi avec cet environnement-là. Si on veut manger autre chose, si on veut manger n'importe quoi, on était libre, quoi. Mais voilà ce qui nous était proposé. Et je pense qu'on, enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas du tout vécu comme une cause d'isolation. Parce qu'on n'était pas dans cette histoire de se restreindre. C'est-à-dire que, bah oui, quand il y a des invités, quand on a des amis qui viennent, bah, il y a aucun problème pour faire des écarts. Mais voilà, toujours essayer de calculer ces écarts-là. C'est-à-dire que oui, faire une salade, il y a aucun problème. On peut faire toutes les salades qu'on veut. C'est pas considéré comme quelque chose de dramatique et qui va nous nuire. Pareil avec les céréales, oui, le quinoa, un peu de riz. Bon, c'est toutes ces choses-là qu'il faut dédramatiser et qui nous font pas du mal non plus. Ce avec quoi j'ai grandi, c'est plus une proposition des aliments crus, en effet. Là où je vous dis que c'est pas une limite, ce vers quoi on allait, ça pouvait être, oui, des salades, très souvent, parce que c'est simple et parce que c'est rapide. Et puis que c'était un outil aussi, voilà, pour l'école également. La salade, c'est une clé, parce que, en effet, les gens ont l'habitude de ça. Et donc, ne trouve pas ça bizarre. Alors que si je me ramène avec mes deux fenouilles et mes tomates à la cantine, j'aurais sans doute été vu avec un angle un peu différent, quoi. Donc voilà. Après, est-ce que c'était une limitation? En fait, je l'ai pas vécu comme ça, parce que oui, on me proposait ça, mais j'avais pas envie d'aller vers autre chose, parce que je me suis rendu compte, et même encore aujourd'hui, que, en fait, ce type d'alimentation, quand il est bien géré, et c'est important de le préciser, on se sent bien, en fait, en mangeant comme ça, et c'est même plus l'inverse. C'est, il y avait pas de limitation, mais quand j'allais manger une pizza avec des copains, et ben, le lendemain, je sentais que, j'allais pas faire d'écart avant une semaine, quoi. Après, c'est assez spécial, parce que moi, justement, j'ai grandi avec ça, donc mon organisme, il grandit avec ça, et c'est ça qu'il assimile bien. Vous parliez également dans le premier épisode que c'était dangereux de manger des pommes de terre ou les patates douces, je sais plus, et que c'était dur à digérer. En effet, la plupart des gens ont du mal à le digérer. Et quand on grandit avec, ben, notre organisme, il s'habitue à ça, et il y a aucun souci, en fait. Dans le cru, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas limité. En fait, j'ai pas une plage, j'ai pas des aliments que je peux citer en disant oui, je me suis régalé avec ça, ça, ça ou ça. Enfin, même si il y en a en effet, mais c'est changeant. C'est-à-dire que tous les repas, la plage alimentaire, c'est la base de cette alimentation aussi. C'est qu'il faut que ce soit varié. Ça va des graines germées, des lentilles germées, aux fruits, aux légumes très variés. Il y a de tout en fait. Hein, donc, il faut justement que ce soit très varié. Mais oui, moi particulièrement, j'affectionnais. La patate douce, les arachides crus, c'est à ça auquel je pense en premier. Mais évidemment, en fait, comme on change constamment ce que je mange aujourd'hui, ce vers quoi j'avais envie d'aller un jour, le lendemain, ça allait être différent. Puisque c'est basé sur ce dont on a l'impression, dont on a besoin, ce que notre organisme nous dit, et ben c'est jamais le même du jour à un autre. Alors, c'est pas qu'une histoire d'imaginaire. Hein. Il y a à la fois le psychisme qui se dit « oui, j'ai l'impression d'avoir envie de ça ». Mais il y a également l'odorat, il y a également la salive. Quand on sent quelque chose et qu'on salive, bon, il y a généralement pas trop de doute que c'est un bon choix.
Aujourd'hui, par commodité sociale, Léo s'est mis à manger du cuit plus fréquemment. Mais dès qu'il peut, il préfère manger cru pendant un moment. Car, nous dit-il, c'est ce que son organisme a été habitué à faire depuis sa plus tendre enfance et donc c'est ce qui lui fait le plus de bien. Manger parfois cuit, parfois cru, cette diversification de l'alimentation n'est pas possible chez la sœur de Léo, qui a reçu la même éducation alimentaire, mais dont l'organisme semble avoir été si habitué au cru qu'il ne tolère pas le cuit. Quelle que soit leur nature, au quotidien, les restrictions alimentaires demandent rigueur, organisation et contrôle. Mais lorsque cette rigueur augmente au détriment de tous les autres aspects de la vie, on parle d'orthorexie. Un terme qui vient du grec « ortho », qui signifie « correct », et « orexie », qui veut dire « appétit ». L'orthorexie est une obsession pour l'alimentation saine. Cette obsession se définit comme l'ensemble des préoccupations obsessionnelles envers la nourriture saine, se fondant sur les croyances propres de l'individu et marquée par une détresse émotionnelle, une perte de poids et une altération clinique significative, selon les chercheurs Thomas Dunne et Steven Bratman. Pour en savoir plus sur l'orthorexie, je me suis entretenue avec la psychologue clinicienne Marie Dajon.
Je m'appelle Marie Dajon, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans le domaine plutôt de la psychiatrie auprès de patients qui ont des troubles du comportement alimentaire et j'ai réalisé ma thèse il y a quelques années sur cette problématique-là et plus précisément sur l'orthorexie. Donc, je suis psychologue et docteur en psychologie avec toute une partie de mon activité qui est plus tournée aussi vers la recherche.
Marie Dajon a soutenu une thèse sur l'orthorexie il y a quelques années. Une recherche au cours de laquelle elle a étudié l'évolution, l'accompagnement thérapeutique et les trajectoires de vie des personnes orthorexiques. J'ai commencé par demander à Marie Dajon de me parler des liens entre crudivorisme et orthorexie, selon elle.
Le crudivorisme, c'est une pratique alimentaire qu'on va retrouver quelquefois dans cette volonté de vouloir manger sain, dans les comportements orthorexiques. Mais pour moi, c'est juste un élément parmi d'autres et souvent, c'est une pratique alimentaire qui est transitoire. En fait, l'individu va pratiquer le crudivorisme pendant 3 à 6 mois et puis ensuite, il va tester d'autres choses comme le jeûne ou le régime sans sucre ou manger bio, par exemple.
Vouloir manger sain, donc c'est a priori une bonne chose quand on le dit comme ça. Mais en quoi cet intérêt, cette envie peut virer à l'obsession? et même peut-être devenir pathologique.
C'est vrai que manger sain, c'est un comportement qui va être très valorisé dans notre société actuellement et que ça peut tourner à l'obsession. L'obsession pour l'alimentation saine, c'est ça qu'on appelle l'orthorexie. Et c'est un trouble qui se résume déjà par le fait qu'il y a une focalisation qui va vraiment être obsessionnelle sur les pratiques alimentaires et des pratiques alimentaires qui sont censées favoriser le bien-être, la bonne santé grâce à une alimentation saine. Le problème, c'est que ça va être tellement obsessionnel qu'il va y avoir des règles alimentaires qui vont être très rigides, très inflexibles, des préoccupations qui vont être récurrentes avec des pensées obsessionnelles qui sont tournées vers l'alimentation. Et puis, d'autre part aussi, va y avoir des conséquences qui vont être vraiment significatives sur la santé, sur l'état mental aussi de la personne avec déjà des complications médicales au niveau somatique et puis au niveau aussi plus psychologique, on retrouve souvent une grande détresse, de la souffrance et il va y avoir aussi des conséquences au niveau des domaines importants du fonctionnement social, familial, professionnel. Donc ça peut être des personnes qui ont perdu leur travail à cause de ça ou peut-être que cette pratique a pu aussi engendrer des conflits au niveau familial. Donc voilà, il va y avoir vraiment des conséquences et c'est dans ce cas-là qu'on parle plus d'une obsession pathologique, une pratique pathologique.
En pratique, comment on peut mesurer ce moment où peut-être la volonté de manger sain devient obsessionnelle, pathologique ? Disons, à partir de quand tout cela peut devenir inquiétant ?
La limite est assez fine, assez floue en fait, mais d'après moi, et aussi pour les psychologues, l'élément qui fait la différence entre juste je mange sain parce que c'est bon pour moi et c'est normal, et l'aspect plus obsessionnel et pathologique, c'est vraiment la question de la souffrance. Si en fait l'individu exprime une souffrance, une détresse physique, psychique, émotionnelle, qu'il y a de l'isolement, que le fonctionnement aussi est impacté par ses pratiques alimentaires, là on peut dire que ça devient inquiétant et que du coup l'individu est tombé dans l'extrême, dans des comportements alimentaires extrêmes. Mais la limite est assez floue à déterminer justement entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique. C'est ça qui est un peu compliqué avec l'orthorexie. Surtout que y a aussi ce qu'on appelle l'orthorexie saine. Et là, c'est des personnes qui vont avoir, c'est vrai, des comportements qui sont très centrés sur l'alimentation saine, qui vont leur objectif, ça va vraiment être de manger sain et d'être en accord avec leurs valeurs. Mais pour le coup, dans cet aspect-là de l'orthorexie, il y a rien de pathologique parce qu'il y a pas de souffrance. C'est des individus qui fonctionnent normalement, qui peuvent travailler, avoir une vie de couple, une vie familiale, etc. Donc là, la limite est assez floue.
Et alors, est-ce que cette volonté de manger sain, est-ce qu'on peut dire qu'elle a évolué au cours de l'histoire ? Et si oui, quelles seraient ses caractéristiques aujourd'hui, là tout de suite, à l'heure où on parle ?
La volonté de manger sain, c'est vrai qu'elle elle a évolué au cours de l'histoire, mais en fait, les êtres humains sont toujours intéressés à l'alimentation depuis très longtemps. Et Hippocrate, déjà à l'époque... disait que Hippocrate, donc le père de la médecine moderne et qui était aussi précurseur dans la diététique, il parlait déjà du pouvoir de l'alimentation et peut-être que vous avez déjà entendu cette citation qui est assez connue. Il disait que l'aliment soit ta seule médecine. Donc déjà pour lui, l'alimentation avait déjà des vertus et des pouvoirs sur la santé. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les préoccupations pour l'alimentation saine peuvent véritablement tourner à l'obsession avec... par exemple, l'essor on parlait du crudivorisme, mais il y a aussi l'essor du locavorisme, le fait de manger uniquement local, l'essor de l'alimentation bio. Donc voilà, les individus orthorexiques, ils vont tout prendre au pied de la lettre en ne mangeant, par exemple, entièrement bio, mais aussi, par exemple, que leur propre production de fruits et légumes. Et pour eux, ça va pas être envisageable d'acheter des fruits et légumes au supermarché, par exemple. Parce que pour eux, c'est pas des produits qui sont sains. Et pour eux, voilà, des produits sains, c'est des produits qui viennent de leur potager et qui viennent de cueillir. Et je sais que dans un article que j'avais lu sur l'orthorexie, en fait, l'auteur expliquait que son patient, lui, n'acceptait de consommer des fruits et légumes qui venaient de son potager uniquement et qu'il avait cueilli pas plus de 15 minutes avant de les consommer. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très extrême. On est sur des préoccupations obsessionnelles avec aussi toute la journée qui va être orientée sur sur l'alimentation, donc des pensées très centrées sur l'alimentation, et qu'est-ce que je vais faire à manger, et où est-ce que je vais aller faire mes courses, et comment je vais préparer mes repas. Donc c'est aussi prévoir les menus à l'avance, cuisiner des choses à l'avance, enfin voilà, c'est vraiment toute la journée, toute la vie de l'individu qui est régie par son objectif d'alimentation saine. Donc il n'y a plus la place pour autre chose, pour d'autres activités, pour un travail ou une vie de famille, en fait c'est envahissant.
Depuis quand on parle d'orthorexie exactement ? Il me semble que ce terme a émergé plutôt récemment. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que c'est un terme qui existe depuis longtemps mais dont on ne s'était pas trop approprié encore dans l'espace public ?
En fait, la première fois qu'on a parlé d'orthorexie, c'est un médecin anglais, le docteur Steve Bratman, qui en a parlé dans son livre, et ça date donc de 1997. Donc, en soi, ça commence à faire, bon, ça fait une vingtaine d'années, mais par rapport à d'autres pathologies, d'autres troubles, c'est quand même assez récent comme phénomène. Et c'est lui qui l'a mis en évidence pour la première fois, donc voilà, en 1997. Et puis ensuite, les recherches et aussi les esprits sont un petit peu plus familiarisés avec ce terme-là. C'est vrai qu'avant, on en parlait moins, on se posait pas autant de questions autour de l'alimentation. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui est en pleine expansion. Moi, je sais que quand j'ai commencé ma thèse et que j'ai commencé à faire des recherches sur l'orthorexie, il y avait très peu de choses dans la littérature, très peu d'articles publiés, très peu d'ouvrages. Et là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est vraiment, ça fourmille de recherches sur l'orthorexie. On en parle beaucoup plus, bah, même à travers des articles vulgarisés aussi à la télé, à la radio. Donc voilà, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment en pleine expansion. Et pour moi, ça a été amplifié par les réseaux sociaux. Parce que voilà, c'est une source d'information qui est infinie sur l'alimentation, qui est facilement accessible, gratuite, etc. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est un mode de communication et de partage qui fait que les individus bah, vont s'exprimer plus librement. Ils vont aussi se comparer entre eux dans l'idée que peut-être réussir à être celui qui mange le plus sainement, un peu comme une sorte de compétition. Donc, il y a de la comparaison, il y a du partage, mais il y a aussi de la comparaison. Et aussi, un autre point qui pourrait expliquer cette expansion, c'est que on vit quand même dans un climat de peur par rapport à l'alimentation, avec tous les scandales alimentaires qui ont eu lieu récemment dans notre société et qui vont mettre en cause les grandes entreprises agroalimentaires. Les mauvais traitements aussi infligés aux animaux dans les élevages, le gaspillage alimentaire, la surconsommation. Donc tout ça, c'est des facteurs en fait socio-culturels qui font que ces événements-là vont venir renforcer les craintes et les peurs et créer un contexte de panique alimentaire qui atteint du coup les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables et les plus sensibles à ça en fait. Voilà, récemment, on a eu l'histoire du lait pour les bébés contaminés. Et puis, comment ne pas parler aussi des fameuses lasagnes à la viande de cheval. Enfin, voilà, c'est tous ces éléments-là font que on vit dans un contexte de crainte et de peur alimentaire qui va venir renforcer le phénomène de l'orthorexie. J'avais un professeur à la fac, le professeur Denoux, qui a écrit justement un ouvrage sur l'orthorexie. Lui, il parle de société orthorexique et de névrose culturelle, comme quoi c'est vraiment les facteurs sociétaux et culturels qui vont avoir le plus d'impact dans l'émergence de ce trouble.
Quels sont aujourd'hui, selon vous, les enjeux qu'il y a à nommer ce phénomène, à pouvoir vraiment enfermer ce phénomène dans une expression que l'on va pouvoir utiliser et puis de pouvoir désigner en fait l'orthorexie?
Ça va être l'idée que si on reconnaît que le phénomène de l'orthorexie est vraiment un trouble à part entière, parce que bon, il faut savoir que l'orthorexie, c'est là on parle de tendance, de phénomène en pleine expansion, etc. Et c'est pas reconnu comme officiellement un trouble, comme peut l'être l'anorexie ou la boulimie ou d'autres troubles du comportement alimentaire en fait. Donc si on reconnaît que ce phénomène existe bien, que c'est un trouble à part entière, qu'il y a des personnes qui en souffrent, et ben on va pouvoir mettre en place justement des pistes de traitement, de prise en charge pour aider ces personnes qui en souffrent, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour l'instant, les personnes orthorexiques, elles sont identifiées comme ayant ayant un trouble du comportement alimentaire qui est très souvent associé à l'anorexie ou à un autre trouble, elles sont pas reconnues ni diagnostiquées pour ce trouble-là, ce qui fait que il n'y a pas de prise en charge spécifique pour les aider, en fait.
Est-ce qu'on arrive à dégager des caractéristiques communes chez les personnes qui sont touchées par ce trouble ?
Il faut savoir, comme je vous disais, que l'orthorexie, donc c'est pas un trouble officiellement reconnu hein, par les classifications des troubles mentaux, les classifications mondiales. Mais pour moi, de ce que j'ai pu voir à travers toutes les recherches que j'ai menées au cours de ma thèse, ça rentre quand même dans la symptomatologie des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, de par cette symptomatologie, on peut identifier des causes. C'est difficile d'identifier une seule et même cause hein. Souvent c'est comme dans les autres troubles aussi, c'est plurifactoriel, c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qui font que la personne va se tourner vers ce type de comportement. Souvent c'est des éléments de vie. Ça peut être aussi des traits de personnalité, enfin en tout cas des conditions de vie, mais du coup ça dépend un peu de chaque individu. Je peux pas généraliser, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, ce qu'on remarque d'assez général, c'est qu'il y a quand même une certaine vulnérabilité. Il y a chez les individus qui souffrent de comportements, qui ont des comportements orthorexiques, il y a une vulnérabilité, il y a des fragilités qui peuvent venir de leur passé, de leur enfance. De leur histoire de vie, du climat d'anxiété alimentaire dont je vous parlais tout à l'heure aussi, et qui du coup vont impacter et modifier leur comportement alimentaire. Mais voilà, il n'y a pas de cause, il n'y a pas une seule cause à ce trouble comme pour l'anorexie ou la boulimie. C'est vraiment un ensemble de facteurs qui est propre à chaque individu. Mais ouais, ce qu'on a remarqué quand même, c'est qu'en général, il y a quand même un terrain, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que les personnes vont être fragilisées et donc plus susceptibles de développer ces comportements.
Et dans les conséquences, vous avez commencé à en aborder quelques-unes tout à l'heure en disant que que c'était difficile de se concentrer sur le reste de son existence quand on est à ce point obnubilé par son alimentation. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les conséquences de l'orthorexie en général ?
Les conséquences, déjà au niveau somatique, au niveau physique, il y a des carences alimentaires, forcément, puisque quand on a une alimentation aussi rigide où les personnes ont exclu plein d'aliments, voilà, il y a des carences alimentaires qui peuvent déboucher sur de la malnutrition ou de la dénutrition, carrément. Et aussi, donc c'est des personnes quand même qui vont avoir un IMC, un indice de masse corporelle qui va être très bas, donc c'est des personnes qui vont être très maigres, en fait. Donc oui, voilà, au niveau physique, au niveau physiologique, il va quand même y avoir un impact et des conséquences importantes et assez graves hein, qui peuvent vraiment conduire les personnes à finir à l'hôpital. Et puis au niveau plus psychologique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette détresse qui est présente, une détresse émotionnelle. Il y a de l'isolement puisque c'est des personnes qui vont parfois rompre les liens sociaux parce que plus possible de faire des dîners entre amis, plus possible d'aller au restaurant quand on contrôle pas ce qu'il y a à la carte. Et ça peut aller jusqu'à perdre son travail puisque ça pour eux c'est inenvisageable de, par exemple, partager un repas avec des collègues et puis ou manger à la cantine le midi, surtout qu'il y a tellement de pensées obsessionnelles et intrusives et parasites que en fait la personne est incapable de se concentrer sur son travail, donc ça peut aller jusque là. Et puis ça peut aller aussi jusqu'à entraîner des conflits avec la famille puisque forcément dans la famille les autres membres de la famille ne vont pas manger comme la personne orthorexique, donc ça va entraîner des tensions, des conflits, surtout autour du repas. Et puis, une autre conséquence aussi, plutôt de l'ordre financier, puisque on sait, hein, manger sain, manger bio, ça a un coût. Donc souvent, c'est des personnes qui vont dépenser des sommes astronomiques en produits bio ou en compléments alimentaires ou dans des régimes spécifiques. Donc voilà, tout ça, ça a un coût aussi au niveau financier qui peut entraîner certaines personnes qui n'ont pas forcément les revenus suffisants jusqu'à avoir des dettes.
Comment peut-on s'éloigner de l'orthorexie et est-ce que vous avez des conseils, des recommandations pour toute personne qui
souhaiterait retrouver un rapport sain. Justement, je trouvais ça amusant, l'obsession du sain ou le rapport sain aussi à l'alimentation, c'est-à-dire un rapport peut-être plus joyeux et spontané et moins obsessionnel. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ?
Bah, justement, c'est compliqué parce que manger sain, c'est valorisé socialement. Et souvent, bah, les personnes qui ont des pratiques orthorexiques, elles se rendent pas compte qu'elles mettent leur santé en danger. Donc, il y a une sorte un peu de déni. Elles pensent qu'elles font bien pour elles et pour leur santé et pour leur corps, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc déjà, ça nécessite de prendre conscience en fait que leur pratique alimentaire que eux jugent saine, bah en fait, ne l'est pas. Et que bon, ça nécessite voilà de sortir du déni déjà. Et puis aussi, l'autre étape, c'est d'apprendre à déconstruire un peu toutes les représentations, toutes les fausses croyances sur l'alimentation saine, du genre que, par exemple, pour reparler du crudivorisme, que cette croyance que manger les aliments crus, c'est plus sain et c'est meilleur pour le corps. Il y a cette croyance-là un peu hein, que les gens vont avoir, alors que voilà, tous les nutritionnistes, tous les diététiciens vont vous dire l'inverse. Mais voilà, l'idée, c'est de déconstruire toutes ces pensées, ces fausses pensées hein, sur l'alimentation, et du coup de reconstruire d'autres pensées et de réintégrer d'autres habitudes alimentaires en réintégrant les aliments au fur et à mesure qui ont été exclus. Si des personnes ont exclu tout le sucre, toutes les graisses, etc., l'idée c'est de petit à petit réintégrer tous ces aliments. Et puis aussi, bah, c'est de rassurer, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce climat, cette peur, en fait, cette angoisse d'être empoisonné par la nourriture. Donc là, il s'agit vraiment de rassurer. Parfois, c'est une peur qui est irrationnelle. Donc, voilà, là, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver ce plaisir aussi de manger, parce que c'est quelque chose qui est très souvent, c'est un aspect qui est très souvent oublié et négligé, puisque les individus orthorexiques ont oublié ce qu'est le plaisir de manger. Il y a tellement des comportements rigides et des règles à respecter qu'il n'y a plus aucune place pour le plaisir de manger. Donc voilà, c'est un peu tous ces points-là qu'on travaille en thérapie, par exemple. Donc parfois, c'est vrai que ça nécessite de rencontrer un professionnel de santé, que ce soit un médecin nutritionniste, un diététicien, un psychologue qui va être spécialisé aussi dans la nutrition, pour faire le point par rapport à ça, puisque comme je vous dis, ces personnes ne se rendent pas forcément compte qu'elles se mettent en danger. Donc une aide extérieure est parfois la bienvenue.
Pour en savoir plus sur les travaux de Marie Dajon, n'hésitez pas à consulter les deux articles universitaires que nous vous glissons en description de l'épisode. Il est intéressant de constater, comme à notre époque, incertitude quant à l'avenir et doute envers les institutions nourrissent des modes de vie orthorexiques. La construction d'une alimentation santé passe par une pensée globale de l'individu et de ses actions. La création d'une écologie de soi qui touche tous les domaines de la vie et donne l'illusion d'une maîtrise et d'un contrôle sur l'avenir, dit à ce propos la chercheuse Camille Adamiek. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », disait Bria Savarin. Ou plutôt, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, ce qui te fait peur, ce que tu veux contrôler et ce que tu souhaites devenir ». Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.